Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Make that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Ce matin, on a tous un peu la gueule de bois et l'esprit cotonneux, les récits pleuvent, les témoins parlent, les photos sont publiées, les hommages dessinés partagés. Celui-là de Louison, parmi tant d'autres, m'a fait sourire. On voit Dieu perché sur un nuage tagué qui lâche, désespéré. Ils ont déjà dessiné des bites partout. Tout le monde évoque la liberté de la presse, la liberté d'expression, mais je crois qu'on oublie quelque chose, les soldes. À Angers en tout cas, même si la sonorisation des rues s'est interrompue logiquement et respectueusement lors des temps de recueillement, même si elle a servi de diffuseur pour appeler au rassemblement en mémoire des victimes, la sono n'oublie pas de nous rappeler qu'il y a moins 50% sur les chaussettes en alpaga, car la liberté d'expression, oui, mais la liberté d'avoir chaud aux pieds, aussi.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons l'association La Caverne Sensorielle qui organise jeudi prochain, dans une semaine donc, à l'espace culturel, un événement très électronique, Perception. Ce sera juste après la chronique de Thomas. Mais d'abord, on va tenter de comprendre les sigles CUI, CAE, contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi. Qu'est-ce que c'est et c'est pour qui d'ailleurs? Comment sortir du labyrinthe des critères d'éligibilité? À qui doit-on s'adresser pour en bénéficier? On va essayer d'y voir plus clair.
C'est à quel sujet ?
Et nous désirons obtenir le laissez-passer A38.
On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2.
Ici, à côté ?
Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier.
Que voulez-vous ?
Le laissez-passer A38.
Vous avez le formulaire bleu ?
Le formulaire bleu ? Non.
Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer A38 ?
Et où trouverai-je le formulaire bleu ?
Guichet 1.
Mais j'en viens.
Bonsoir Jean-Pierre Renaud.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de relations entreprises à la mission locale Angevine et c'est à la mission locale Angevine qu'on s'adresse quand, en ce qui concerne les CUI, CAE. S'il vous plaît, aidez-nous à nous retrouver dans tous ces sigles emploi d'avenir, CUI, CAE. C'est quoi la différence ?
Alors, on s'adresse à la mission locale pour les 16-25 ans, mais on peut s'adresser aussi également à Pôle emploi, hein, qui comme nous, a la prescription sur les contrats aidés. Donc tous ces sigles, en effet, ça regroupe ce qu'on appelle les contrats aidés, donc des contrats qui sont financièrement aidés par l'État et qui ont pour objectif, notamment pour les 16-25 ans, donc de favoriser leur embauche au sein des entreprises.
La différence entre les emplois d'avenir et les CUI-CAE, est-ce que c'est la même chose ?
Alors, ce sont des contrats aidés. Les emplois d'avenir, on va être sur 3 ans. Hein. Donc on est plus sur du long terme et les emplois d'avenir associent aussi une formation, hein, un parcours de formation qui est obligatoire sur la mise en place des emplois d'avenir, alors que sur un contrat CAE, ça ne va pas être une obligation qu'on va demander aux entreprises. Hein. C'est fortement recommandé sur un contrat CAE, mais ça l'est d'autant plus sur un emploi d'avenir, puisque l'idée c'est non seulement d'acquérir une première expérience pour un jeune, mais aussi d'aller vers de la qualification.
Alors, à qui ça s'adresse, ces contrats aidés ? Le but, vous disiez 16-25 ans, c'est d'aider à entrer dans l'emploi. Est-ce que ça s'adresse à une certaine catégorie de la population, au-delà de l'âge, bien sûr ?
Ouais. Je vais simplement resituer Mission Locale un petit peu qui on est. Donc, on est en France, nous, le réseau d'accueil et d'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi, hein, de 16 à 25 ans. Mais aussi, on reçoit des décrocheurs scolaires ou universitaires. Hein, donc, ça peut, dans ce cadre-là, on est aussi amené à recevoir des jeunes qui peuvent avoir interrompu leur cursus scolaire universitaire. Donc, ces contrats s'adressent à des 16-25 ans. Alors, l'emploi d'avenir, c'est vraiment la mesure jeune, hein, qui ne peut être mise en œuvre que pour des jeunes. Le contrat CAE.
Une mesure, pardon, l'emploi d'avenir qui a été instaurée par le gouvernement actuel il y a 2 ans, en fait, ouais. C'était une promesse de François Hollande,
oui,
à l'époque de sa,
ouais,
campagne.
Oui, ça a été mis en place en novembre 2012. Hein. Donc l'emploi d'avenir, c'est vraiment la mesure jeune. Le contrat CAE, contrat d'accompagnement dans l'emploi, s'adresse aussi à d'autres publics, des plus de 26 ans.
Est-ce qu'il y a quels sont les critères d'éligibilité pour ces contrats-là, puisque c'est très compliqué en fait de s'y retrouver. Il y a tout un tas de critères à remplir, enfin ou au moins un. Et voilà, on sait pas forcément lesquels. Et surtout, ce qui est bizarre, et je vais vous demander pourquoi, est-ce que ça change d'une région à l'autre? C'est-à-dire que les contrats, les critères d'éligibilité sont pas les mêmes si on va travailler à Marseille, si on postule à Marseille ou à Rennes ou à Angers.
Oui. Alors, en effet, il y a des critères bien particuliers. J'ai parlé d'abord des emplois d'avenir. Alors, ces contrats, faut les resituer. C'est-à-dire que ce sont avant tout des contrats d'insertion. Ça veut dire qu'on va s'adresser à des publics qui sont un petit peu plus en difficulté que d'autres pour trouver un emploi. Alors, si on prend l'emploi d'avenir, on s'adresse à des 16-25 ans qui, le public prioritaire sur les emplois d'avenir, ce sont les jeunes non diplômés. Donc ça veut dire des jeunes qui n'ont obtenu aucun diplôme. Donc c'est vrai que c'est la majorité des emplois d'avenir qu'on peut signer ici, notamment sur Angers. Après, on peut élargir à des jeunes qui auraient par exemple obtenu un CAP, BEP et qui peuvent justifier de 6 mois de recherche d'emploi. On peut aller à des niveaux, jusqu'à des niveaux Bac plus 3 pour des jeunes qui à la fois peuvent justifier de 12 mois de recherche d'emploi. Concrètement, un jeune qui par exemple aujourd'hui aurait obtenu un Bac plus 3 au mois de juin, de l'année dernière, aujourd'hui il n'est pas éligible à un emploi d'avenir. Par contre, s'il justifie de 12 mois de recherche d'emploi et qu'il réside sur certains quartiers, ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles, donc sur Angers, ben, il n'y en a pas 50, c'est Montplaisir, c'est les Hauts-de-Saint-Aubin, Belle-Beille et Trélazé-les-Plaines. Donc pour des jeunes diplômés qui auraient en effet des niveaux jusqu'à Bac plus 3, il faut qu'ils aient 12 mois de recherche d'emploi et qu'ils résident sur ces quartiers-là.
Ce sont des critères cumulables alors?
Oui. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus restrictif dès qu'on est diplômé pour pouvoir bénéficier d'un contrat aidé. Si on prend le contrat CAE, contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui est une autre formule, mais encore une fois sans obligation de formation de la part des entreprises, le contrat CAE, donc, il s'adresse non seulement à des jeunes, mais aussi à d'autres, à des publics un peu plus âgés. Par contre, là, on va être sur des critères, par exemple, nous, pour les jeunes pour lesquels on peut signer des contrats CAE, ce sont des jeunes qui sont en accompagnement avec la mission locale, donc qui rencontrent régulièrement un conseiller avec lesquels on va mettre en œuvre un accompagnement. Et ça, ce sont des jeunes jusqu'à des niveaux bac, en dessous du bac plus 2 non validé. Après, sur ces contrats-là, CAE, on va être aussi donc soit sur un accompagnement mission locale, soit des jeunes qui auraient des durées d'inscription longues à Pôle emploi, soit des jeunes qui pourraient percevoir ce qu'on appelle le RSA, revenu de solidarité active. Voilà en gros les critères.
Et pourquoi est-ce qu'ils varient d'une région à l'autre ? Comment on explique ça?
Alors, ça varie d'une région à l'autre parce que ce qu'on appelle les bassins d'emploi, enfin, la situation de l'emploi n'est pas la même d'une région à l'autre. Il y a des bassins où ça va être plus, on va trouver un niveau de chômage plus élevé chez les jeunes. Donc là, on va être sur des critères plus restrictifs. Sur d'autres bassins, ça va être plus de 50 ans qui vont trouver plus de difficultés à trouver de l'emploi. Donc là, les contrats vont leur être réservés de façon plus prioritaire.
Et dans cette échelle-là, les Pays de la Loire, ils se situent où? Est-ce qu'on est plutôt restrictif ou plus cool, entre guillemets?
Globalement, c'est un peu difficile de répondre à votre question, parce que je n'ai pas forcément la lecture nationale, mais c'est vrai que ça reste compliqué pour des jeunes diplômés si en effet, ils ne peuvent pas justifier d'une durée de recherche d'emploi.
Quand vous dites une durée longue de recherche d'emploi, c'est-à-dire
Je vous disais, pour un emploi d'avenir, si un jeune, par exemple, a un niveau Bac+, ça va être 12 mois de recherche d'emploi et résider dans les fameux quartiers dont je vous ai parlé. Si on prend l'exemple du contrat CAE, on va être sur 24 mois, 2 ans d'inscription pour l'emploi. Donc, c'est très restrictif.
Et une fois qu'on a répondu à tous ces critères d'éligibilité, on a droit à quelle forme de contrat? En fait, ce sont des CDD avec durée hebdomadaire de travail, payé comment
Alors, si on prend l'emploi d'avenir, donc c'est un contrat, c'est une aide de l'État sur 3 ans. Donc ça peut être soit direct un CDI, soit un contrat de 1 an ou un contrat direct sur 3 ans. Donc ça varie entre 1 an, 3 ans ou CDI direct.
Payé au SMIC?
Payé minimum au SMIC, mais après, si par exemple on est dans une association avec une convention collective, c'est la convention collective qui va être appliquée.
Et du côté de l'employeur, comment ça se passe? quel avantage il a l'employeur pour justement embaucher des...
Alors, on va parler des employeurs parce que selon les contrats, ça ne va pas être le même type d'employeur. Globalement, les contrats aidés, on va les trouver majoritairement dans tout ce qui est le secteur associatif, donc auprès des associations, soit auprès des collectivités territoriales.
Tout ce qui est non marchand, en fait.
Tout ce qu'on appelle non marchand. Hein. Donc ça va être dans des communes, dans des syndicats intercommunaux, des communautés de communes, voilà. C'est globalement, on va trouver la majorité des contrats aidés dans ce type, soit auprès d'associations, donc soit auprès de collectivités territoriales. Si on prend l'exemple de l'emploi d'avenir, ça a été aussi ouvert au secteur marchand, donc tout type d'entreprise. Hein. Aujourd'hui, une entreprise qui en a fait un projet de recruter, qui nous dit j'ai envie de partir minimum sur un an avec un jeune, alors il faut que le contrat aussi fasse minimum 24 heures semaine. Hein, c'est une mesure par exemple régionale. Qu'on ne va pas trouver partout ailleurs. Mais ici, en Pays de Loire, il faut que l'employeur soit partant, en effet, minimum sur un an, 24 heures semaine minimum. Ça y est, j'ai perdu le fil.
Et quel avantage bénéficient les employeurs quand ils embauchent quelqu'un dans ces contrats?
Oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, donc, ça a été étendu sur les emplois d'avenir au secteur marchand, donc quel que soit le secteur d'activité. Donc aujourd'hui, une entreprise qui vient nous voir, qui nous dit « Moi, j'ai le projet d'embaucher un jeune sur un an, et je vous dis dans la limite de minimum 24 heures semaine, quel que soit le secteur d'activité, on va pouvoir mettre cet emploi d'avenir en route si l'entreprise est partante aussi sur l'aspect formation, c'est-à-dire d'engager aussi le jeune dans un parcours de formation complémentaire à son emploi. »
Il bénéficie aussi d'exonération
Sur l'emploi d'avenir, il y a une prise en charge qui est très importante de l'État, puisque l'État prend en charge... Alors, si on est sur le secteur non marchand, donc associatif et collectivité, l'État va prendre en charge 75% sur le SMIC brut. Si on est sur le secteur marchand, donc une entreprise, un commerce, une entreprise de bâtiment, enfin, peu importe, là, on va être sur une prise en charge à 35%.
On comprend bien donc l'intérêt des employeurs à se diriger vers ce type de contrat.
C'est vrai que c'est très intéressant, notamment pour, si on prend l'exemple d'une petite entreprise qui démarre, qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, qui souhaite embaucher son premier salarié, ça peut être très intéressant. Hein, on en a fait plusieurs, hein, pour, par exemple dans le secteur de la restauration, un restaurateur qui démarre, qui souhaite embaucher un jeune, ça peut être une bonne solution. Hein.
Oui. On va poursuivre cette discussion avec vous, Jean-Pierre Renaud, juste après Ariel Pink avec Lipstick.
Thank you.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir dans le sous-marin, nous évoquons les contrats aidés en compagnie de Jean-Pierre Renaud, chargé de relations entreprises à la mission locale angevine. Je vous propose d'écouter le témoignage de Marion, qui a signé en avril dernier un CUI-CAE à Toulouse. Bonjour Marion.
Bonjour.
Vous avez 24 ans, vous êtes employée au sein d'une association à Toulouse, employée en CUI-CAE. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de votre parcours universitaire ?
Alors, moi j'ai fait un master autour des sciences sociales appliquées au monde du développement et de la coopération internationale, principalement pour travailler dans les pays du Sud. Et après, en fait, à la suite de ce master, j'ai eu un petit peu peur de me lancer sur le marché de l'emploi qui était... plutôt saturé, et du coup j'ai voulu reprendre un deuxième master qui était autour des nouvelles technologies appliquées au monde du développement. Et j'ai réalisé mon stage sous la forme d'un service civique au sein d'une association. Et donc je me suis retrouvée coordinatrice d'une association employée en service civique, enfin même pas sous le terme d'employée parce que ce n'est pas un contrat de travail mais plus... une sorte de convention de volontariat. Et donc, je me suis retrouvée avec pas mal de responsabilités pour un volontaire, ce qui n'est absolument pas le contrat de départ où on est censé apporter une aide à une association, mais absolument pas prendre des responsabilités et prendre énormément d'initiatives.
Et donc, suite à ce service civique, vous avez été embauchée en CUI-CAE l'année dernière. Vous, sur quels critères vous avez été embauchée ?
Alors déjà, à la base, je ne connaissais pas ce contrat et c'est un conseiller de la mission locale qui nous l'a fait découvrir et qui nous a dit « tentez le coup ». Donc, parce que moi, à la base, je n'avais pas de mois d'inscription à Pôle emploi derrière moi. J'étais inscrite que depuis un jour à l'époque et en fait, il nous a dit qu'il y avait un critère qui était sorti qui était pour les moins de 26 ans. Donc, sur ce, on a contacté le Pôle emploi qui est rattaché au siège de mon association pour leur demander si on pouvait avoir un contrat de CUI-CAE pour moi. La première réponse a été plutôt négative, puisque la conseillère nous a dit « Voilà, vous ne correspondez pas tout à fait aux critères des CUI-CAE. Nous sommes en réflexion, nous allons voir si nous vous attribuons ce contrat. » Et donc, du coup, le président de l'association a fait une lettre pour insister un petit peu, en expliquant un petit peu la situation, en disant que... c'était normal que j'ai ce contrat parce que j'avais été bénévole et volontaire depuis quelques temps et que c'était tout à fait normal que j'ai ce contrat aujourd'hui et pas quelqu'un d'autre, que voilà, je correspondais plus ou moins aux critères. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'attribution du contrat CUI-CAE est au bon vouloir du conseiller Pôle emploi qui est rattaché à la structure.
Je crois que vous avez le témoignage de quelqu'un d'autre qui s'est retrouvé dans une situation un petit peu kafkaïenne aussi en ce qui concerne les critères d'éligibilité au CUI-CAE.
Tout à fait. En fait, j'ai un ami qui en fait fait aujourd'hui trouver du travail dans le monde associatif. Et donc le contrat, on va dire, classique aujourd'hui du monde associatif, c'est le CUI-CAE. Et malheureusement, Pôle emploi ne lui donne pas l'autorisation parce qu'il a enchaîné des petits boulots, de livreur notamment, où il a signé des contrats notamment en CDI, mais pour des temps partiels et complètement sous-payés. Mais le Pôle emploi ne veut pas entendre parler de sa situation parce qu'il a un contrat CDI, même si cette situation est totalement précaire et il est complètement en difficulté d'insertion. Le fait qu'il soit en CDI aujourd'hui suffit à Pôle emploi pour qu'il soit retiré de la liste des chômeurs et personne ne veut lui donner de contrat CDI.
Et donc, suite à ce CICE, est-ce que vous savez si l'association dans laquelle vous travaillez actuellement va pouvoir vous embaucher ?
Alors, si, enfin, je pense que l'association va continuer mon contrat sous la forme d'un CDI, puisqu'on peut renouveler un CICE un an à condition de passer le salarié en CDI, avec la même aide pendant un an.
Voilà donc Marion diplômée, voire très diplômée, puisque licence plus deux masters qui enchaînent un service civique, bon ça c'est un autre sujet le service civique, et un CUI-CAE. Et puis si on va chercher un petit peu des annonces de recherche sur internet, sur Profil Culture cet après-midi au hasard, annonce pour chargé de communication, la description du poste c'est coordination des outils d'information et de communication, participation à la mise en œuvre des projets et vie associative avec des compétences qui sont formation en communication ou en gestion de projets culturels, maîtrise des outils informatiques, maîtrise d'internet, bref on demande quelqu'un de très très qualifié pour un CUI-CAE. Vous, quelle est votre réaction quand vous entendez des témoignages comme ça de personnes diplômées qui, quand même, ont accès au CUICE ? Enfin, comment ça se fait ? Puisqu'initialement, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, ce n'est pas destiné à ce public-là.
Alors, il existe il y a toujours une petite enveloppe dérogatoire, hein, mais qui est vraiment très minime. Hein. Si on prend l'exemple des Pays de Loire, en général, on est sur une enveloppe de 3%. Hein. Où Pôle emploi ou la mission locale peut présenter une demande de dérogation auprès de la direction du travail, hein, qui valide en effet l'engagement des contrats aidés. Mais c'est très dérogatoire. Et on va en effet étudier la situation de la personne. On peut être parfois sur des gens qui peuvent, n'ont pas forcément une recherche d'emploi très longue, mais qui vont rencontrer d'autres difficultés par ailleurs. Hein, qui, par exemple, depuis qu'ils ont quitté le système scolaire, vont avoir rencontré, je ne sais pas, des difficultés un peu plus sociales, de logement, familiales. Bon, on va faire le tour de la situation quand même. Ce qui permet parfois, et encore une fois, ça reste exceptionnel, hein, et là je parle pour les Pays de Loire, je ne sais pas comment ça fonctionne à Toulouse, ce qui permet dans certains cas, en effet, de pouvoir, même pour des jeunes un petit peu plus diplômés, d'engager des contrats aidés.
Hein. Donc c'est un peu ce qu'elle, quand elle dit c'est au bon vouloir du conseiller, c'est cette enveloppe-là, elle est un peu au...
C'est jamais au bon vouloir d'un conseiller, hein, c'est toujours soumis, si on prend que ce soit mission locale ou Pôle emploi, à une commission qui va étudier. Hein. Donc on peut pas dire ça, non. Hein. Si on prend l'exemple du CE, hein, sur laquelle la personne a été embauchée, et si on prend par exemple les Pays de Loire, une personne qui habite dans les quartiers que je vous ai cités tout à l'heure, ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles, même si elle est diplômée, du fait aussi qu'elle réside dans ces quartiers-là, elle peut être éligible au contrat aidé. Hein.
Et si on reprend l'histoire de l'ami dont elle parlait, ouais. Qui est en CDI en tant que livreur à temps plus que partiel, d'après ce qu'on peut comprendre, et qui se voit refuser un CUICE, ça c'est aussi une situation qui est paradoxale.
Oui, mais malheureusement qu'on rencontre souvent, ouais.
Quand j'évoquais tout à l'heure les annonces, enfin j'en ai cité une au hasard sur le chargé de communication, donc qui pourrait être embauché en CUICE, mais on demande déjà beaucoup de compétences. Est-ce qu'on n'assiste pas à une dérive en fait de l'utilisation de ce contrat-là par certains employeurs qui demandent quand même des gens très qualifiés avec beaucoup de compétences, un profil de bac plus 3, voire des fois de bac plus 5. On a vu des annonces comme ça passer, c'est assez fréquent. Est-ce qu'il n'y a pas faudrait pas mettre des garde-fous, ou alors comment est-ce qu'on pourrait envisager les choses pour qu'il n'y ait pas ce décalage entre les compétences très élevées qui sont demandées, puis en face un contrat qui n'est pas destiné à des personnes diplômées?
Ben c'est vrai qu'on va trouver, on peut trouver un décalage en effet entre l'objet de ces contrats, qui encore une fois je rappelle ce sont des contrats d'insertion, hein, donc ça veut dire qu'on est censé s'adresser à des publics un petit peu plus en difficulté, et les profils de poste. Hein. Maintenant, on sait qu'aussi, et vous le savez aussi bien que moi, que dans le secteur associatif, ce sont des structures qui fonctionnent sur des subventions, sur des petits moyens, et que bien souvent, embaucher quelqu'un à taux plein, c'est pas souvent bien possible. Alors après, ce qui se passe aussi souvent, c'est que le contrat aidé, c'est une première étape, ce qui permet à l'association de pouvoir être accompagnée sur le financement pendant les premiers temps, mais de pérenniser le poste au fur et à mesure et de se donner un peu de temps pour trouver le financement ensuite pour pouvoir financer ce poste-là.
D'expérience, c'est souvent le cas. Vous suivez souvent des personnes qui finalement arrivent à trouver un contrat entre guillemets classique.
Oui, après ça va dépendre des structures, hein, mais si on prend dans le secteur associatif, il y a quand même bon nombre de jeunes qui en effet peuvent démarrer par des contrats aidés et qui, lorsque ça se passe bien et lorsqu'ils ont développé les compétences attendues, peuvent être pérennisés par un CDI. Ça va être moins vrai si on parle des collectivités. Hein, dans une mairie, les recrutements ils sont soumis la plupart du temps à des concours, donc ça se passe beaucoup moins souvent. Hein.
Vous expliquiez tout à l'heure que les critères d'éligibilité variaient tous les 6 mois à peu près. Mm-hmm. Quand seront les publiés les prochains, qu'on se tienne un petit peu au courant?
Ça devrait arriver la courant janvier, hein, fin janvier. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus grand changement. C'est des petits changements, des petites modulations, mais on restera... Alors, si on prend l'exemple des emplois d'avenir, François Hollande a annoncé en fin d'année qu'il y aurait 15 000 emplois d'avenir au niveau sur toute la France pour des jeunes diplômés, sans forcément critères soit de recherche d'emploi, soit de domiciliation du quartier où ils habitent. On les attend, hein, puisque ça a été annoncé, donc ça pourra donner en effet une petite, sûrement une bouffée d'oxygène aussi pour des jeunes diplômés qui ont du mal à trouver du travail. Voilà, en dehors de ça... de cette petite enveloppe qui sera complémentaire là, pour 2015. Bon, il n'y a pas non plus des grands changements sur les contrats aidés, parce que je réinsiste encore là-dessus, c'est des contrats d'insertion.
Jean-Pierre Renaud, si jamais on a des questions, si jamais on a des doutes, si on veut se renseigner sur les CUICAE, les emplois d'avenir, on vient vous voir?
Oui, alors on vient voir la mission locale, sachant qu'on ne reçoit pas quand même, nous, des universitaires ni des scolaires. Hein, comme je voulais présenter, la mission locale, nous, on s'adresse à des demandeurs d'emploi. Après, les informations peuvent se trouver sur Internet facilement. Il suffit d'aller consulter le site de Pôle emploi. Là, il y a toutes les informations sur, en effet, les contrats qui existent, les publics éligibles, pour les employeurs, les taux de prise en charge, enfin, les différentes caractéristiques, quoi.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Keep up in counting, send me good.
C'était Paranoïde de Taggy Matcher et Birdie Nixon.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on retrouve Thomas pour une chronique un peu spéciale. Salut Thomas.
Salut Tiffaine. Bon, pour être honnête, j'avais pas réellement envie de faire ma chronique aujourd'hui. Et puis bon, là, après 30 heures, après les événements qui ont coûté la vie au héros de Charlie Hebdo, j'ai l'impression que tout a été dit. Toutes ces voix médiatiques, politiques et citoyennes qui se sont exprimées depuis hier sont pour moi comme des essaims d'émotions et de courage que l'on prend en pleine face. Et puis là, en écrivant ma chronique, je me suis comparé aux journaux papier qui ont tous du retard sur l'actualité en direct, des chaînes info non-stop ou des réseaux sociaux eux aussi non-stop. C'est pourquoi j'avais décidé dans un premier temps de ne pas venir vous parler ce soir de géopolitique internationale. Et puis j'ai vu à la télé l'urgentiste Patrick Peloux, que j'admire depuis de nombreuses années et que j'avais eu la chance de rencontrer lors de la fête de l'humanité. Patrick Peloux donc, qui est arrivé après la fusillade et qui avait essayé de sauver ses compères du journal en vain. Ce même Patrick Peloux que j'ai retrouvé sur ma télé dès le lendemain du drame, avec une rage de s'exprimer, de parler, de faire face. Cela m'a rappelé que quand j'avais rencontré Patrick Peloux, j'avais eu la chance dans ce même quart d'heure de rencontrer Cabu, qui m'avait caricaturé avec une gentillesse infinie, et Charb, qui m'avait croqué à un homme point tendu et ferme, qui disait « on les aura ». J'ai donc finalement décidé de moi aussi parler de ma liberté d'expression et de prendre mon courage à deux mains, de parler malgré tout. Car même si je ne suis pas plus légitime qu'un autre pour cela, moi aussi, je suis Charlie. C'est donc en tant que Charlie qu'hier je me suis rendu au rassemblement Place du Ralliement, où je me suis réconforté auprès de plus de 1500 autres angevins et angevines qui, comme moi, avaient besoin de ne plus se sentir seuls. En France, nous étions plus de 100 000 à sortir de nos foyers pour se recueillir. Et dans le monde, d'autres personnes ont ressenti ce besoin. Plus d'une trentaine de rassemblements dans de grandes métropoles mondiales ont eu lieu. Et quand, pour faire ma chronique, j'ai voulu regarder sur internet des informations sur ces rassemblements, j'ai vu de nombreuses photographies. Et sur ces photographies, les mêmes visages, infiniment tristes, et les mêmes corps résolument debout que ceux que j'avais croisés lors de la veille, lors du rassemblement à Angers. Ce soir donc, pas de décryptage de l'actualité internationale, ce soir pas de chronique de 5 minutes, mais l'envie de vous parler pour vous dire que ce soir, à travers la planète, comme nous, tout le monde se sent un Charlie.
Merci Thomas.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Oh, un petit tapis comme ça. La Caverne Sensorielle, c'est une association étudiante toute jeune qui est née à l'automne 2014, qui présente jeudi prochain, le 15 janvier, la soirée Perception à destination de nos sens. Une soirée qui confrontera performances visuelles et mix électro à l'espace culturel de l'Université d'Angers. Et pour en parler, nous recevons Mathieu, le président de l'asso. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Benjamin, vice-président. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Avant de parler de cet événement, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle formation vous venez et ce projet Perception, la Caverne Sensorielle, est-ce que ça s'inscrit dans votre parcours universitaire?
Donc du coup, on est en Master 2 chargé de développement entreprise territoire avec un parcours culture. Et du coup, ce projet, en fait, c'était vraiment pour mettre à profit les choses qu'on apprend dans l'année, en fait. Et on n'avait pas concrètement de projet sur lequel on pouvait s'épanouir. Qu'on a décidé donc de se confronter à la réalité du terrain, en fait, avec deux autres membres qui sont pas là ce soir, et de créer une asso et de mettre en place un projet culturel à destination des étudiants.
Il y avait des critères auxquels il fallait répondre pour monter ce projet-là. Est-ce qu'il y avait des critères imposés par l'université et lesquels?
Oui, donc il y a eu des critères imposés par l'université parce que donc on a un important soutien financier de l'université. En fait, c'est le fonds de soutien de développement des initiatives étudiantes. Donc à partir de là, en fait, on est passé devant une commission, on a déposé un projet, donc un dossier. Et donc notre demande a été reçue. Et donc à partir de là, le projet a pu se mettre en place. Donc on a la validation depuis décembre. Et on avait commencé à réfléchir à la programmation bien avant.
Ouais.
Et c'est quoi les critères alors auxquels il faut répondre? Est-ce que vous les connaissez?
Donc du coup, il faut que ce soit un projet fait par des étudiants, pour des étudiants. Dans l'idée, là, le lieu, c'était l'espace culturel. Donc un lieu qui n'était pas forcément approprié par les étudiants. On n'avait pas forcément la chance de pouvoir voir des choses concrètes faites par les étudiants dans ce lieu. Donc on a décidé de monter ce dossier. Et les critères, c'était vraiment ça. C'était vraiment pour les étudiants. Et, Voilà.
Oui, c'était qu'est-ce que le projet peut apporter en fait aux autres étudiants de la fac, vu que l'espace culturel est un lieu en fait dédié aux étudiants.
Et quelles difficultés avant de parler du projet, je vous assure, on va y venir à cette soirée-là, mais quelles difficultés on rencontre quand on monte une asso, quand on monte un projet et quand on est quatre et qu'il va falloir y aller, quoi. Pas tant que ça, en fait, il n'y a pas trop de difficultés.
Bah, la difficulté majeure, c'est de vraiment, parce qu'on est sur un délai limité, on a eu cette idée d'asso vraiment en septembre, sachant que c'était le début de la rentrée. Il fallait tenir compte de cette deadline en fait qui était vraiment à la fin du mois, et c'était de chercher des fonds, de trouver une programmation qui soit cohérente, des partenaires. Et le plus difficile à mon avis, c'était ce temps limité en fait, et, parce que c'est vraiment, on a déposé le dossier la veille vraiment avant la commission. Pour les futurs étudiants qui souhaitent créer ce genre de projet, il faut vraiment s'y prendre longtemps en avance, je pense. Nous, on aurait eu cette idée l'année dernière, on aurait eu plus le temps de s'en approprier. Là, c'était vraiment une deadline limitée.
Pas de regret, puisque ça va se faire, c'est jeudi prochain.
Ouais, exactement.
Et donc, Perception, c'est pas qu'une soirée de mix électro,
non.
C'est presque un projet militant, en fait. Quand on lit votre édito de présentation, alors je vais le lire, ça va peut-être être un peu long, mais ça vaut le coup. Alors voilà, je me lance. Parce que les perceptions de notre environnement se télescopent et se renouvellent sans que nous ayons pris le temps de bien les comprendre, parce que notre attention trop distraite nous fait manquer des rencontres fructueuses, et surtout parce que nous pensons que l'homme porte en lui les causes de ses illusions, mais également les moyens de son rétablissement et de sa libération, nous proposons d'approcher avec votre participation et votre curiosité une caverne sensorielle, un refuge, un échappatoire culturel abritant un vaste laboratoire expérimental, plus proche d'un monde hédoniste, plus loin du monde intelligible qui nous est proposé. C'est carrément idéologique.
C'est carrément, exactement, ouais. Alors cet édito-là, moi je l'avais écrit du coup l'année dernière, avant même que l'asso se mette en place. Il faut savoir que la caverne sensorielle, c'est une page Facebook qui date d'il y a 3 ans. C'était un projet perso à l'origine, et je diffusais des sons et je demandais à des artistes de nous faire des podcasts, donc une fois par mois. Et du coup, ça s'est concrétisé après en association, mais là, vraiment, la trame de notre association, c'est une programmation de musique électronique accompagnée d'une exposition. Cette fois-ci, c'est une exposition photographique sur le thème de la perception.
De Yann Ouvrard.
Exactement, Yann Ouvrard. Et en plus, une performance d'un artiste plasticien. Ici, c'est Sin Stencil, donc artiste, on pourrait dire du courant pop art, street art, qui va nous réaliser, donc qui sera présent de 18h à minuit à Perception.
Mais juste, je reviens sur cet édito et sur ce que vous voulez véhiculer. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme... Est-ce qu'on parle de valeur dans ces cas-là ? Est-ce qu'on parle de... C'est quoi votre intention?
C'est vraiment
pour
la,
aller plus loin que juste de la musique, quoi.
Qu'on n'a pas forcément tous les jours la chance d'être confronté au milieu de l'art ou au milieu de... C'est... On veut donner les clés aux étudiants de pouvoir être confronté à tout ça. On a basé notre soirée sur un prix tarifaire qui est assez limité, et c'est vraiment donner la chance à tout le monde de pouvoir accès à toutes ces disciplines, donc il y a la photographie sur cet événement, qui est le street art, et du coup la programmation musicale. Et sur d'autres projets, on va essayer de garder cette trame, bien sûr. Ouais.
Et pour les artistes aussi, du coup, au niveau du développement local des artistes, parce que c'est vraiment des artistes donc régionaux, principalement d'Angers. Et c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude, sur Angers, les lieux sont difficiles à trouver pour mixer. La plupart du temps, ça se passe au Jacaré, dans des bars, dans des lieux assez petits. Et c'est vrai que pour eux, on leur offre quand même une réelle chance aussi, devant beaucoup d'étudiants, de se produire avec un vrai régisseur, un cadre professionnel. Donc
si DJ locaux, voilà. On va les citer, HMS et Decimo, Dark Noise Conspiracy.
Exactement.
Comment on dit ça, Sweet Wife?
Sweet Wife.
Sweet Wife, pas du tout. Adjubury et Beverly Hills, c'est des potes?
C'est des potes et des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup lors des soirées sur Angers. Ouais, mais à l'origine, c'est plus des potes, ouais, pour une première soirée, ouais.
Donc ça va se suivre tout au long de la soirée, 18h minuit, chacun son set, une heure chacun.
Ouais, ça va être une programmation qui va aller crescendo, qui va commencer par de la deep house, en passant par la minimale et en finissant vraiment par HMS. Du coup, on peut entendre le fond sonore par de la techno vraiment industrielle. Et voilà, on a choisi cette programmation pour que ça aille crescendo. Ouais.
Et puis donc vous le disiez, des performances d'artistes, une exposition, puis aussi une scénographie constellaire
Wayna. Ouais. Du coup sur ce projet on a vraiment de la chance, c'était pas prévu au début. On comptait faire appel à des assos pour nous aider à faire le mapping ou la scénographie. Sur cet événement on a eu de la chance donc que le régisseur de l'espace culturel soit à peu près dans le même délire que nous et du coup il va nous assurer une scénographie audio-réactive avec la musique. Il va créer ses propres visuels et ça va animer vraiment les performances des DJ. Voilà.
Donc, caverne sensorielle pour les yeux, ok, pour les oreilles, okay. Il nous reste quand même le toucher, le goût et l'odorat. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a quelque chose de prévu ou non? On gère que deux sens ce
soir? Oui, il y a quelque chose de prévu. Donc, il y aura un stand food donc avec le camion d'à côté, qui est un food truck, donc qui est basé à côté de l'ESPL au campus de Belleveil. Donc, des anciens étudiants de l'université d'ailleurs qui ont monté ce projet. Et ils proposeront des frites maison, des paninis. Il y aura aussi de la bière donc dans l'espace culturel et ils proposeront aussi des soupes, des boissons chaudes.
Alors dans le cadre de la soirée, vous avez mis en place une billetterie en ligne qui a bien marché puisque je crois que l'intégralité des 100 places a été complètement...
Du coup, on en a remis un petit peu sur le site. Il doit en rester 20 places à l'heure où on parle.
En tout? Non, après sur place on peut...
Sur place du coup, vu que la billetterie, les 100 premières places sur Wiz Event ont été écoulées assez rapidement, il y en avait 100 qui étaient, qu'on comptait distribuer comme ça, sauf qu'on en a mis du coup 50 en plus sur Wiz Event. Et là, juste avant de venir, on a fait le petit check-up et on s'est aperçu qu'il restait une vingtaine de places.
Vous attendiez un succès pareil ou pas?
Oui et non. Oui, parce que sur Angers, je pense qu'on apporte quand même une patte assez
novatrice. Il y a une réelle demande sur Angers, sans parler des lieux donc, qui sont difficiles à trouver pour les DJ. Donc il y a une réelle demande de ce point-là, ça on était un petit peu confiant, mais non, parce que c'est quand même notre premier événement, donc on s'est lancé dans ce projet. On n'avait aucune expérience là-dedans réelle, donc on avait quand même un petit peu la peur au ventre. Il y avait des fonds financiers derrière, il y avait un engagement de notre part, donc on est super contents quoi, de ce succès.
Mmh. Du coup, ça sert à rien de se pointer jeudi prochain, il n'y aura plus de place quoi.
Devant l'entrée, non.
Devant l'entrée, non, mais par contre...
Il en reste toujours un petit peu sur internet et il y en a à gagner du coup grâce à notre partenaire La Baignoire Magazine, donc tentez votre chance.
Puis on pourra toujours écouter un bout de la soirée. Exactement, sur Radio Campus Angers, puisqu'on retransmet cette soirée Perception. Quel projet après cette première édition vous pensez que, vu le succès, est-ce que vous pensez déjà après?
On a plein de projets en tête. La seule chose qui est un peu frustrante, c'est qu'étant donné qu'on est en Master 2, on a forcément un stage. La plupart d'entre nous auront un stage en dehors d'Angers, sauf qu'on garde ce projet en tête et bien sûr il y a plein d'idées toujours en gardant en tête cette trame programmation musicale, exposition, performance artistique, mais on réfléchit à plein de choses. On a la chance d'avoir le soutien de la ville aussi, donc pourquoi pas penser à des événements dans des bâtiments qui seront bientôt réhabilités, ce genre de choses. Enfin, on a pas mal de choses en tête.
D'accord. Bon, donc en tout cas, pour ceux qui ont leur place, et tant mieux pour eux, c'est jeudi prochain, 18h minuit à l'Espace Culturel, et puis sur le 103FM de Radio Campus Angers. On va écouter Hmes.
C'est ça, Hmes.
Un petit mot sur le DJ, peut-être?
Hmes, donc un pote que j'ai rencontré l'année dernière. J'ai eu la chance d'aller à Amsterdam aussi avec lui au Nouvel An. Donc on a écouté beaucoup de techno, c'est vraiment, il a son propre univers et c'est vraiment chouette. Et je pense que de 23h à minuit lors de la caverne, ça risque d'envoyer.
Ça va bien clôturer la soirée. Ouais.
Voilà.
Merci beaucoup Mathieu et Benjamin d'avoir été dans le sous-marin ce soir. Et puis donc, bonne dernière ligne droite avant jeudi prochain. Ouais,
merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est cool.
Voici donc Hmes avec Craft. La perme de ce soir, ça se passe à l'espace culturel de l'Université d'Angers. Une mise en bouche avant le festival Premier Plan qui commence dans 8 jours. L'association Cinéma Invisible projette Uomo in Più de Paolo Sorrentino, c'est à 20h30. On termine cette émission avec la traditionnelle bulle sonore. Avec Scratch Fellas, Jérôme et Thomas mélangent chaque mercredi les dernières sorties rap US et hip-hop, partent à la découverte d'artistes émergents tout en revisitant les classiques et clôturent chaque émission en nous concoctant un mix. Voilà l'ordre du jour d'hier soir.
Bonsoir Jérôme.
Salut Thomas.
Ça va?
Ça va et toi?
Impeccable.
Bon.
Bonsoir à tous.
De retour 2015.
2015, Scratch Fellas.
Voilà, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour vous.
Bonne année, tout ce qui va avec.
Du bon son.
Voilà, on commence pas l'année.
On aurait pu la commencer mieux.
Voilà.
Mais bon.
Une journée un peu terne.
C'est ça. Et on va se consoler bon, en se passant du son de toute manière. Et puis voilà. En prenant plaisir à écouter Scratch Fellas.
Voilà, c'est ce qu'on va dire.
C'est ça.
Alors, des petites choses fraîches pour ce début d'année 2015 de ton côté.
Alors, moi, ce sera plutôt à l'ancienne, donc c'est bien. À la limite, ça va compenser.
Compenser quoi?
Si toi, t'as fait des trucs frais.
Tu sous-entends que j'ai des nouveautés.
C'est ce que j'imaginais, non?
J'ai du Joey Badass parce qu'il a ressorti encore un
morceau
là qui annonce l'album qui arrive le 20.
Cool.
J'ai DJ Quick.
Ok, ouais, carrément.
Son West Coast.
Californien,
C'est ça, il a sorti un album assez récemment.
Il refait des trucs encore.
J'étais
persuadé qu'il avait arrêté.
Et non, carrément pas, et l'album est bien.
D'accord.
Il tient bien la route, quoi.
Il avait fait des très bonnes mixtapes à l'époque avec Bri et tout ça.
Il a sorti pas mal de trucs, hein.
C'était costaud, ouais.
Et l'album là s'appelle The Midnight Life, donc il est sorti récemment, on s'écoutera un titre.
D'accord.
J'ai du rap français aussi, Hamad, qui est un rappeur qui a sorti un album là il y a quelques semaines, Perdant Magnifique, ça s'appelle. Et c'est très bien produit, bien rappé, donc on s'écoutera ça.
La totalité du programme est à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com. Merci à Thomas pour la chronique, merci à un autre Thomas pour la co-préparation de l'émission et merci à Daphné pour la réalisation. Et bien nous on se retrouve lundi à 19h. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.